Nous vous présentons à l'instant l'art du métier prise 2 avec Daniel Le, jésuite, artiste peintre, qui s'entretient avec son invité Jacqueline Rochette, organiste et ancien directeur artistique de Casavant.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'art du métier prise 2. Heureux de vous retrouver, comme à chaque mois. Et aujourd'hui, particulièrement heureux d'accueillir Jacqueline Rochette. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Daniel.
On va faire de belles découvertes, je vous avertis là. Attachez vos tuques, c'est l'hiver, attachez vos tuques. Monsieur Rochette est organiste. C'est un organiste très connu, qu'on a entendu souvent à Radio-Canada dans des émissions. C'est un homme qui a une longue carrière de musicien, mais aussi qui a été très impliqué au niveau de tout ce monde de l'orgue au Québec. Vous avez même reçu, je pense, la médaille nationale du Québec, hein, c'est ça?
Exactement, j'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale après 30 ans de carrière chez Casavant. Oui. Et où j'ai été directeur artistique.
Là, vous venez d'éveiller une curiosité, parce que Casavant, tout le monde connaît ça. Hein? Au Québec, c'est une des institutions les plus importantes dans le milieu de la création artistique. Et vous avez été directeur artistique aussi de Casavant. Mais on a du temps. On va tout reprendre ça doucement. Moi, quand je me retrouve devant un invité qui a autant de vécu, je me dis, bon, il n'y a pas de problème pour remplir les deux émissions de 30 minutes. Donc, si vous voulez bien, vous êtes un petit gars de Québec. Premièrement, ça c'est bien. Ça, on est bien content quand c'est des petits gars de Québec. Vous avez fait vos études à l'Université Laval, hein, je pense.
Oui, exact.
Puis vous avez commencé votre carrière ici à Québec.
J'ai commencé ma carrière à Québec. En fait, l'éveil musical s'est produit à Saint-Augustin. Chez nous, nous avions un piano. Mon oncle jouait du violon. Et... c'est principalement à l'église que j'ai découvert l'orgue. Alors, l'accompagnement du chant grégorien à l'époque, et j'étais fasciné par les couleurs de l'orgue, et surtout fasciné parce que j'entendais des notes graves, des notes aiguës, et j'imaginais l'organiste étendu de tout son long sur le clavier pour couvrir toutes ces notes. Et je retardais à la fin de la messe, j'attendais de voir l'organiste sortir. Et c'était une toute petite personne, et je me demandais comment elle faisait pour faire tout ça. Et j'ai réalisé plus tard que cette fascination-là, cette écoute des sons-là, m'avait amené à découvrir l'instrument et à faire une carrière dans ce domaine.
Ça vous a donné le goût d'étudier l'orgue, de jouer de l'orgue?
Oui, et ça a été... Il y a eu beaucoup de concours de circonstances. On dirait que tout était organisé d'avance pour que ça aille dans ce sens-là. J'ai commencé les cours d'orgue et puis très rapidement, 5 mois après les premiers cours d'orgue à 17 ans, j'ai commencé à jouer dans les églises. Ah, ouais. Alors ça s'est fait très rapidement et j'ai découvert ce grand instrument, les possibilités de sonorité, tout le répertoire et surtout l'attrait liturgique de cet instrument dans les églises. Et j'ai commencé à Saint-Augustin, par la suite j'ai été à la Nativité de Beauport, j'ai remplacé le titulaire de la cathédrale de Québec pendant une année et après j'ai été nommé directeur musical à l'Église unie Chalmers Wesley où j'ai appris à parler anglais. Et par la suite, les opportunités se sont ouvertes et puis j'ai commencé à travailler chez Casavant. J'avais connu d'autres cultes, je parlais anglais, donc j'étais capable de travailler dans ce monde de l'orgue à la grandeur de l'Amérique et même du monde.
Être directeur artistique chez Casavant, ça veut dire quoi exactement ça? Ça veut dire que... C'est quoi le travail quotidien? Parce que vous avez été là plusieurs années. Hein?
Oui. Bon, décrire le travail de Casavant, ça couvre beaucoup d'aspects. Il y a d'abord la rencontre de clients, élaborer des projets avec eux, comprendre leurs besoins et travailler avec eux à réaliser un instrument. Alors, ça se fait parfois des années avant de commencer un contrat. On a des premiers contacts. Une fois qu'on s'est entendu sur un projet, on élabore avec eux, mais En même temps, en atelier, nous fabriquons les pièces, nous fabriquons les composantes. Donc, comme directeur artistique, je suivais au niveau du dessin qu'est-ce qui se planifiait. Je déterminais, avec mon collègue Jean-Louis Coignet de Paris, je déterminais les tailles des instruments, la composition, et on mettait ça, tout ça en plan et on fabriquait les instruments. Et quand, une fois que c'était fabriqué, il y a bien sûr la livraison sur le site. Et après ça, on donne le son à cet instrument-là dans son lieu. L'acoustique, les besoins, les attentes du client. Et puis il y a aussi de l'intangible. Ça doit être un très bel instrument, très bien conçu, très bien balancé. Donc, tout ça, c'est le rôle un peu, je dirais, du directeur artistique, mais... En fait, le directeur artistique est souvent, souvent un catalyseur qui travaille avec une grande équipe. Et c'est d'amener tout le monde ensemble à travailler. Et c'est là que se produit vraiment des moments de génie où on crée de très beaux instruments qui touchent les gens finalement.
Si je comprends bien, chaque orgue est différent. Donc, est créé en fonction d'un lieu, d'un besoin, d'un désir.
Exactement. Chaque orgue a une fonction différente. Quand nous avons créé des instruments pour de grandes cathédrales, nous rencontrions les gens par rapport aux besoins du culte. Quand nous avons créé des instruments pour les salles de concert, je pense au Palais Montcalm à Québec ou encore à la Maison symphonique à Montréal, eh bien, il y a eu des rencontres avec la direction musicale et avec les gens qui étaient responsables de l'acoustique aussi, et avec les architectes, avec les ingénieurs. On a vraiment tous travaillé ensemble pour créer ces instruments-là, des instruments qui sont beaux, qui touchent, qui amènent de l'émotion et qui durent. C'est un point très important. La création d'un instrument, c'est pas du court terme. Une fois qu'il est créé, il est là pour longtemps.
Mais ça peut prendre combien de temps, mettons, créer justement un instrument, un orgue?
Un orgue tel quel, un très grand instrument peut prendre jusqu'à 2 ans et demi de fabrication. La planification avant peut s'étendre sur une dizaine d'années et même davantage. Et une fois que c'est terminé, que c'est créé, il y a bien sûr le concert inaugural et après on l'entretient. Et bon, ce qu'on découvre sur ces instruments-là, sur les sonorités, sur les capacités d'émouvoir, ça amène des créations, ça amène de nouvelles compositions. Et puis on va découvrir que ces instruments-là ne sont pas limités à un répertoire spécifique, mais peuvent amener une création d'autres répertoires. Et ça peut même toucher le jazz, ça peut même toucher d'autres moyens d'expression, si on veut.
Parce que les musiciens adorent jouer de l'orgue, même s'ils ne sont pas organistes. Hein? Des pianistes, moi je connais des pianistes de jazz qui, dès qu'ils ont l'opportunité de pouvoir toucher au grand orgue Casavant du Jésus, vont dire oui.
Je n'en suis pas surpris. Et ils tirent des sonorités que les organistes à formation plus classique sont même éblouis en se disant, mais comment ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont retenu comme jeu? Quel mélange ils ont fait? Alors, c'est une écoute différente, mais on aboutit à un résultat qui est, somme toute, convaincant.
Là, on touche plus au musicien que vous êtes. Donc, un coup que l'orgue est là, le musicien doit communier avec cet orgue-là. Il vient compléter par sa sensibilité. Ça doit être tout un univers qui doit être... extraordinaire, là, comme pour un musicien, de découvrir cet instrument-là, découvrir les capacités, les possibilités, puis même les faire découvrir aux autres. Hein,
c'est... Oui, le musicien, bon, il y a d'abord, je dirais, l'interprète, celui qui prend une composition créée par un autre et qui va la faire sienne et qui va l'exprimer à sa manière. Alors, je peux prendre une œuvre très connue comme la Toccata de Bach et je vais la jouer, mais j'aurai des différences par rapport à n'importe quel interprète dans ma manière de m'exprimer. Et on le fait pour chacune des pièces comme ça. Il y a le musicien qui se retrouve, par exemple, en situation de culte et qui a à commenter le culte. Donc, nous allons faire chanter les gens, nous allons accompagner, nous allons faire un choix de jeu pour entraîner les gens, nous allons obtenir une rythmique aussi qui soit incitative à faire chanter. Et à un moment donné, nous allons créer des moments méditatifs, des moments de réflexion. Après une homélie, par exemple, on peut être amené à réfléchir et à dire, bon, le message qui a été passé, qu'est-ce que ça suscite chez moi? Et là, à ce moment-là, je suis libre de faire ce que je veux. Et je peux créer des moments qui me seront très satisfaisants, mais qui ouvriront pour l'auditeur une autre réflexion. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ce que j'exprime peut toucher les gens vont me le dire. J'y retire beaucoup de bien, mais en même temps, jusqu'où ça m'amène, jusqu'où j'amène les gens. Et c'est là qu'il se produit des choses vraiment remarquables.
C'est un des plus grands mystères de l'art, ça.
Exact.
C'est de découvrir en soi, justement, quelque chose qu'on transmet et comment la réception ne nous appartient pas du tout. Puis à recréer un chemin presque infini.
Et on y retire beaucoup à faire ce genre de l'art comme ça. Quand j'ai décidé de faire de la musique, en fait, j'étais confronté à bien des choix. On me conseillait d'aller en ingénierie, d'être un ingénieur mécanique. On me disait que j'avais les capacités pour faire ça. Et puis moi, je me disais, je passerai pas ma vie à faire des calculs et puis à bâtir des ponts, ça marche pas. Ça, je veux pas faire ça. Bon, j'étais touché par la musique et puis j'ai eu beaucoup d'opportunités qui m'ont permis de faire de la musique. Et une fois que le choix a été fait, eh ben j'ai eu un cheminement assez particulier. J'ai terminé mon secondaire en sciences pures, j'ai fait mon collégial en sciences d'administration et je suis rentré en musique à l'université. Alors ça a été, je dirais pour mes proches, ça a été un peu un choc. Qu'est-ce qu'il va faire en musique, hein? Et puis bon, mais j'étais jeune et j'étais, je dirais, très insouciant. Je pensais pas à ça. C'est ce que je voulais faire. Il y avait pas et j'y trouvais dans cette expression-là, j'y trouvais un moyen de vivre, d'être moi-même finalement. C'était pour moi très important de ce mouvement-là de d'expression. Et j'ai fait mes études, j'ai fait ma maîtrise en interprétation. Et à la fin de ma maîtrise, j'ai eu l'opportunité, ça s'est présenté, on m'a téléphoné, puis on m'a dit, ben écoute, on aimerait que tu viennes travailler chez Casavant. Ma réaction, ça a été, hey, oublie ça, qu'est-ce que je vais aller faire là? Et c'est en parlant avec mes professeurs et avec le preneur de son, Jacques Boucher, que je me suis rendu compte que finalement, il y avait peut-être des gens qui voyaient des choses pour moi que je ne voyais pas. Le cheminement était déjà tout cuit. Alors, j'ai accepté en me disant, mais je vais faire le temps qui va être permis, peut-être quelques années chez Casavant, je verrai. Et puis, j'y suis resté 36 ans. Alors, c'est comme ça que s'est développée la carrière.
Vous êtes venu avec des musiques extraordinaires que vous avez interprétées, que vous avez enregistrées vous-même.
Exact.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la première?
J'ai fait l'enregistrement de deux symphonies de Charles-Marie Vidor à l'église de Saint-Roch à Québec. C'était au moment de la réinauguration de l'instrument. Nous avons fait des travaux dans l'instrument. L'instrument n'était pas très sonore. Et nous avons repensé l'instrument et créé dans cette vaste... nef, un instrument qui soit adapté au lieu. Et pour la création, nous avons présenté l'intégrale des symphonies de Vidor. Alors j'ai fait ça avec cinq autres collègues du Québec, et moi j'ai fait les 5e et 6e symphonies. Et pour illustrer ce grand instrument, le travail qu'on avait fait, et un grand moment de création pour l'orgue, je retiens aujourd'hui le premier mouvement, l'Allegro de la 6e symphonie. Alors, c'est un mouvement qui est assez long, mais la présentation du thème tel quel, c'est grandiose. Alors, voilà.
Place à la musique. On aurait pu en écouter encore longtemps.
Oui, c'est
mais on aime bien vous écouter aussi. Donc, on va continuer votre histoire. Vous avez raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand vous avez fait le choix de la musique, vous avez senti que c'est ça qui correspondait à qui vous étiez. Est-ce qu'on pourrait même dire que c'est ça qui vous a permis par la suite de devenir encore davantage qui vous êtes, de continuer à le redécouvrir pendant 30 quelques années ou je sais pas combien?
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Quand j'ai fait le choix de la musique, dans le fond, il y avait beaucoup de dans ma tête jeune, il y avait beaucoup de confrontations. Je regardais la société puis je me disais bon. Je voyais un genre d'opposition entre ce qui peut être créatif et ce qui peut, je dirais, être pris dans un système de...
Déterminé, presque.
Déterminé, où finalement, le rôle des valeurs monétaires, le rôle du veau d'or est si important qu'on en perd sa personnalité. Pour moi, j'étais confronté à ça et je ne pouvais pas. Et je me souviens, j'ai été marqué par des textes à un moment donné. Je me souviens, bon, je devais avoir 7 ou 8 ans et nous sommes à l'église et il y a un texte de Saint Paul, une des 14 lettres qu'il a produites. Et je lisais le texte et je me disais, ça me convient ça. Être disponible, servir, ça me convient ça dans la vie. C'est quelque chose que je retiens. Je ne peux pas profiter des gens. Je ne veux pas. Ce que je veux faire, je veux vivre pleinement. Mais pour vivre pleinement, je ne peux pas tomber dans ce genre de système. Et il me semble que plus on avance, plus ce système de tout préparé, nous englobe complètement. Mais bon, alors ça a été un choix qui a été fait, que j'ai fait. Et puis après, il y a eu d'autres moments aussi de réflexion qui ont été importants. Et ça, tout jeune, je me souviens. Bon, nous étudions le petit catéchisme. Hein. Il y avait les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, etc. Et j'oublierai jamais ce que le professeur nous avait dit en deuxième année. Dans la vie. Vous savez, les commandements de Dieu, c'est la nature, c'est la manière de vivre. On ne peut pas changer ça, c'est comme ça. On le respecte. Et chez moi, à la terre familiale, mon oncle me disait, respecte-le. Il peut arriver qu'on n'en ait plus. Hein? Tout jeune, j'étais sensibilisé à ça. Ouais. J'étais sensibilisé à ça. Et puis, les commandements de l'Église, le professeur nous avait dit, ça, ce sont des commandements d'humains. Et Dieu sait ce qui va en passer. Aujourd'hui, on pense que c'est ça, puis demain, ça pourrait être autre chose. J'ai retenu ça. Et ça m'a vraiment, je dirais que ça m'a guidé pour la suite, pour tout ce qui a suivi.
Je trouve que c'est un filon extraordinaire, parce que vous dites très bien que si on entre dans ce système, au fond, de rentabilité, d'apparence, etc., on perd notre personnalité. Mais du même coup aussi, on perd notre humanité, trouvez-vous pas?
Oh oui.
C'est ça le drame, à la fois individuel et collectif.
Oui, et il y a tellement de paradoxes dans ce monde. Plus j'avance en âge, plus je suis confronté à ces paradoxes. On n'a pas le choix, à un moment donné, de faire des choses, mais en même temps, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, il faudrait faire autre chose. Mais on est confronté continuellement, et notre société... Bon, je me suis beaucoup inquiété... Je regarde comment nous évoluons dans la société, comment nous rejetons nos traditions, comment nous rejetons des habitudes que nous avions qui étaient vraiment des habitudes importantes et puis qu'on délaisse maintenant pour du tape à l'œil, du sommaire. Et qu'est-ce qui va nous rester de tout ça? Mm-hmm. Ça, je suis inquiet à un moment donné. Mais le temps passe J'ai confiance en l'humanité. J'ai confiance dans les jeunes.
Et la création, c'est une réponse, justement, positive. C'est un signe, c'est un chemin d'espérance. Je disais chez Nicolas Dostal, il racontait toujours qu'il était entre le vertige et la foi. C'est que, je pense que c'est ça la sensibilité de l'artiste, c'est d'être conscient de tout ça là, qui bouge, puis il peut tout perdre. Mais sa réponse à ça, c'est de créer. c'est de créer puis d'offrir cette création, comme vous avez très bien dit. Là. C'est ça fait partie de la création, c'est de l'offrir. Et là, de découvrir l'humanité qui continue à grandir, qui est pas en train de se perdre.
L'humanité ne se perd pas. Et bon, j'ai été inquiet pendant plusieurs années à me demander qu'est-ce qui va résulter de tout ça. Et dans mes réflexions et dans mes échanges avec Jacques Boucher aussi, nous nous sommes dit, la jeunesse a la capacité de réagir. Mmh. La jeunesse va voir les erreurs qu'on a faites, les erreurs que notre société fait et va amener au changement. Alors, qu'il y ait des changements qui sont déstabilisants, et on se demande même à un moment donné où on s'en va, oui, mais il y a toujours une création.
On n'est pas déstabilisé dans le fondement.
Non.
C'est pas dans le fondement, comme vous avez très bien fait la différence entre les commandements de Dieu puis commandements. C'est pas dans le fondement qu'on est déstabilisé, c'est dans tout ce qui est agité autour, qui s'agite autour de ça.
Exactement. Et bon, on doit réagir pour assurer une continuité, pour se retrouver, mais en même temps, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure parce qu'on est en pleine création et en pleine redécouverte. Et si on s'apitoie à penser que tout change et puis il n'y a plus rien qui se place, ben on perd son temps.
C'est souvent parce qu'on a peur du changement
oui,
aussi. Hein?
Oui.
On voudrait que rien ne change.
Mais il faut que ça change.
Ben oui.
Et c'est là qu'on crée, et c'est là qu'il se produit des choses extraordinaires.
L'humain, sa force est de s'adapter justement, c'est de découvrir et de révéler tout ce qui est là, tout le potentiel qu'il y a dans la vie. Écoutez, on va peut-être terminer en musique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je suis d'accord.
Ah, c'est tellement extraordinaire, cet orgue. On n'en a pas assez entendu. Ça fait que pouvez-vous nous présenter peut-être une deuxième pièce?
Une deuxième pièce, nous allons retenir une pièce tout en douceur. Le deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Charles Mervidor, l'Allegro Cantabile. C'est une pièce où il y a un jeu de flûte et puis des sonorités solistes qui s'échangent, et puis
c'est merveilleux.
C'est merveilleux. C'est une pièce c'est un verre d'oreille. Voilà.
Jacqueline, merci. Au mois prochain. Si vous me permettez, je voudrais remercier aussi Yannick Caron, que je ne remercie pas assez, hein, qui est à la technique depuis, mon Dieu, depuis le début. Hein. Et il y a une collaboration, une communion, je dirais, extraordinaire. Merci Yannick d'être là. Et terminons en musique.
Vous venez d'entendre l'art du métier prise 2 avec à l'animation Daniel Leblond, jésuite, en compagnie de Jacques Larochette, organiste. Thank you.